Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui parle de la bande dessinée.
Bonsoir.
Salut Thio. Nous sommes sur la terrasse. Le soleil est en train de se coucher. Les cigales chantent. Je ne sais pas si vous les entendez. Il fait bon. Il commence à faire bon car nous souffrons de la chaleur énormément dans notre pauvre coin du sud. Et nous allons, comme à notre habitude, parler de bande dessinée. Aujourd'hui, le programme est classique. Il va y avoir quand même pas mal de comics ou de bandes dessinées d'inspiration comics. Nous allons parler de Kick-Ass volume 2, de Nous ne serons jamais des héros, de Silence, de Daredevil noir, du premier numéro de Batman Universe, et on finira par un petit intégral sur la série Sloka avant de s'attaquer aux aventures de la fin du monde. Comment vas-tu, Thio?
Je suis de retour.
Tu es de retour, ça
je
va
de retour. Je suis revenu de la Bretagne, il faisait frais, c'était trop bien.
Voilà. Et ben, on peut démarrer de suite, sans aucune forme de transition, avec Kick-Ass volume 2. Nous avions quitté notre pauvre héros de Kick-Ass alors que tout semblait rouler pas trop mal pour lui. Il avait décidé d'un peu laisser tomber le truc. Bref, le premier tome, c'était le film. Hein. Pour ceux qui l'ont vu, c'est la même chose.
J'ai pas vu le film.
T'as pas vu le film? Le premier tome, c'est comme dans le film, ça se passe exactement pareil.
Donc il finit par faire croire qu'il est gay, oui. Pour discuter avec la fille qu'il aime.
Ouais. Voilà, machin chose. Donc pour rappeler l'histoire, pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode précédent du podcast où on en parlait, je ne sais plus le numéro. En gros, c'est l'histoire d'un jeune, pas un loser, on va dire un jeune... Un jeune normal qui n'est pas exceptionnel. Enfin, qui
un
brille
jeune
en rien.
Ado, quoi.
Ouais, mais qui brille en rien. C'est pas le premier de la classe, c'est pas l'intello, c'est pas le footballeur américain, comme, c'est pas la pom-pom girl.
Comme 95% des ados.
Voilà. Qui un jour décide de faire le super-héros parce qu'il trouve que c'est pas normal. Alors il s'achète une combi de plongée et il va faire le super-héros et il se fait péter la gueule. Mais il lance un phénomène, d'autres commencent à s'intéresser, il se rend compte qu'il y en a d'autres. Vachement balèze, dont une petite fille qui sont très violents, très, très sanglants. Et on en était à peu près là, hein, à la fin du tome précédent. Et là, on arrive au volume 2. Et d'un coup, pour ceux qui ont vu le film, ça n'a plus rien à voir. On retrouve un petit peu les mêmes choses. Il va rencontrer un nouveau super-héros qui se fait appeler Red Hood. Red Mist, je confonds avec autre chose. Red Mist, qui est... A lui un vrai branleur pour le coup, hein, quand même. Il a une super caisse, il se la pète, il fume des joints, il est trop à la cool. À côté de ça, lui, il fait « Ah, c'est trop cool d'être avec un gars qui a une super caisse, qui fume des joints et qui est trop à la cool. » Sauf que, bien sûr, on apprendra plein de choses mystérieuses derrière.
Sauf qu'aussi, il comprend du coup pourquoi les super-héros travaillent à plusieurs.
Ouais, parce que c'est trop la classe de faire du boulot d'équipe.
Yes.
On rigole.
Et puis on drague.
Et on continue sur l'histoire, sauf que les méchants mafieux qui l'ont emmerdé jusque-là, enfin, qui l'a titillé jusque-là, mais comme... comment elle s'appelle, zut, j'ai oublié le nom de la fille. Ah, Big Daddy et Hit Girl, voilà. Comme Hit Girl et Big Daddy sont un peu venus par là, eux, c'est les super violents de la mort, hein, ils éclatent tous les mafieux, ils se retrouvent un peu pris au milieu avec les mafieux qui essayent de se débarrasser des super-héros qui font pas leurs affaires.
Exactement.
Que dire de ce deuxième tome? On va commencer par dire que ce qui est bien, c'est que ça se démarque énormément du film. Moi, c'est ce que j'ai apprécié. Ce n'était pas la même histoire. Franchement, ils ont prévu de faire un Kick-Ass 2 en BD. Ils ont prévu de faire la même chose en film. Je ne sais pas comment ils vont raccorder les wagons, parce que les fins sont assez dissonantes.
N'ayant pas vu le film, là, je ne cautionne rien du tout.
On va s'en tenir à la BD sur le sujet. Bien, pour commencer, on va dire que c'est de Mark Millar au scénario, de John Romita Jr. au dessin. John Romita Jr. est toujours aussi impeccable. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est... Même si, pour le coup, il est un peu gore, mais c'est fun.
Ça rentre... enfin, ça reste dans la thématique, c'est dans l'ambiance.
Ouais, mais il y a un peu la facilité de dire parce que c'est réaliste, il y a beaucoup de sang et ça gicle. Oui.
Ouais, mais enfin c'est pas nouveau, quoi. Parce que déjà dans le premier tome, tu commences le premier tome avec l'image du tome 2, quoi.
Oui, oui. Rien de vraiment neuf, hein, on va dire, par rapport au premier tome. On est dans la continuité. Si on a bien aimé le premier tome, c'est clair que le deuxième tome va beaucoup plaire. T'en as pensé quoi, toi, de façon générale, de ce qui casse ?
Efficace. Voilà, j'ai passé un bon moment. Maintenant, ouais, il m'a pas laissé un souvenir. Bon, j'avoue que la Big Daddy et sa petite fille, voilà, quand tu commences à connaître l'histoire, ça donne un peu plus d'épaisseur au scénario, mais ça m'a pas. Bon. Mm-hmm. Red Mist, par contre.
Ouais.
J'ai trouvé sympa le personnage.
T'as trouvé sympa le personnage. Alors pour ceux qui ont vu le film, je reviens un peu dessus. Il faut savoir que bon, vous l'avez sans doute déjà lu ailleurs parce que ça fait un moment qu'il est sorti maintenant. Hein. Autant dans la BD, Big Daddy est très inspiré du Punisher. Autant dans le film, il suffit d'avoir vu la bande-annonce pour s'en rendre compte, c'est plutôt du Batman. C'est vraiment là, tu vois. Enfin toi, ça t'a fait penser à quel personnage ? C'est le Punisher. Le Punisher. C'est ça. Dans le film, il a vraiment un look, un design. T'as même pas vu la bande-annonce ? Non,
non, honte à moi, je n'ai rien vu.
Ah ouais, regardé. D'accord, que dalle. Ah. Enfin bon, bref, c'est un tome sympathique qui ne fait pas beaucoup avancer les choses. On va dire que je trouve que c'est un peu surestimé. J'ai l'impression que les gens qui n'ont pas lu du comics, hein, qui ont vu le film, ont trouvé ça génial parce que ça avait l'air novateur, ça avait l'air trop bien, tout ce que tu veux. Mais que si tu as déjà lu pas mal de comics, bah, y a déjà des œuvres un peu équivalentes, dans le même ton. Enfin, qui traite déjà de ce que c'est que d'être un super-héros en vrai. Enfin, c'est sympa, c'est bien écrit, ça coule de source, mais c'est pas. Je suis pas sûr que, en dehors, parce qu'il y a une adaptation, que ça laisse un souvenir impérissable.
C'est un jour à marquer d'une pierre blanche, je pense.
Quoi ?
Putain, on est d'accord sur un bouquin.
On est d'accord sur un bouquin, effectivement. Et oui, je pense que. Il y a des chances, j'ai l'impression, en regardant ce qu'on a sur notre table, qu'on va être d'accord sur pas mal de bouquins aujourd'hui.
Écoute, ce sera. Non, c'est le jour de la nouveauté, on est dehors, c'est pour ça.
Voilà.
On est en terrasse.
Voilà. Donc, bref, Kick-Ass volume 2, c'est chez Panini Comics, ça coûte 11 euros. Si vous avez aimé le premier tome, jetez-vous dessus, c'est du même niveau. Si vous y connaissez rien dans les comics, c'est un bon départ pour découvrir un peu le genre d'aventures qui peuvent arriver. Même si je pense que pour démarrer dans les comics, Invincible est vachement mieux dans un truc indépendant.
Oui, mais c'est un super-héros.
Un vrai.
Là, oui. C'est pas des super-héros.
Bah, ce que je dis, ça demande, pour l'apprécier pleinement, d'avoir des références sur les super-héros. Et quand tu as ces références sur super-héros, quelque part, tu te dis que c'est pas si novateur que ça. Tu vois, c'est un peu complexe, je trouve. Ça a le cul entre deux chaises.
Ouais, c'est vrai. Il n'est pas allé totalement dans un sens, mais pas totalement dans l'autre non plus, quoi.
Voilà. Et nous passons à la suite avec « Nous ne serons jamais des héros ».
Donc des frères Salcedo et de...
Monsieur Jouvret.
Monsieur Jouvret. Qu'on va appeler donc de son prénom, Olivier, hein, Jouvret, Frédéric Salcedo et Greg Salcedo. Alors, nous ne serons jamais des héros, donc l'histoire au départ, c'est un branleur qui est tout le temps chez lui, qui ne fait rien de sa vie, qui n'a à peu près rien réussi pour l'instant, qui essaye de draguer mais qui visiblement n'y arrive pas trop, et qui se retrouve à aller à un enterrement avec son père. Et
c'est sa grand-mère qui est morte.
Sa grand-mère qui est morte. Donc il va donc à l'enterrement avec son père. Et à cet enterrement, donc, il y a aussi sa sœur.
Une bourge coincée du derche, on va dire.
C'est toi qui l'as dit. Et donc, ce père, en fait, qui est handicapé depuis la mort de sa femme suite à un accident de voiture.
Ouais, c'est ça. C'est bien dit.
C'est bien dit. Appelle son fils, lui dit, écoute, faut que tu viennes me voir, j'ai une proposition à te faire. Proposition, c'est...
Alors, il faut savoir que le père, le fils, il va un peu reculons, parce que le père, c'est un emmerdeur de première, un râleur.
Et qu'ils ne peuvent plus se voir.
Ouais, ils peuvent plus se voir. Ils ont du mal, quoi. Ils se voient un peu par la force des choses.
C'est un peu ça l'idée. Et donc, du coup, le père va proposer au fils de faire le tour du monde. Enfin, son tour du monde à lui, on va dire. Et de l'accompagner. Il va tout payer. Il lui dit, je paye tout, les billets, je paye tout, mais tu m'accompagnes. En fait, il va jouer un petit peu les mères poules pour son père.
Qui est un peu handicapé et qui ne peut pas tout faire. Et il lui promet aussi un petit chèque à l'arrivée. Hein.
Ouais, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Enfin, ouais. Moi, c'est pas ce qui m'a marqué, on va dire. Pas choqué. Ouais. Mais
Clairement, c'est pas ce qui encourage le héros. Enfin, c'est pas sa motivation principale au héros. Mais le père propose ça à son fils parce qu'il pense que s'il ne le propose pas le chèque à l'arrivée, son fils dira non.
C'est vrai.
Le père est un personnage super sympa, mais il a un côté acariâtre, côté. Enfin, c'est un gros râleur, quoi. Il est vraiment. Quand tu le lis, c'est le gars qui n'a pas l'air facile à vivre, quoi.
Non, il n'a pas l'air facile à vivre. Effectivement, tu te dis que bon, s'ils ne vivent plus ensemble, c'est peut-être pas plus mal, quoi. Mais bon, après, le voyage, on.
Le voyage a une thématique. Donc oui, c'est important d'en parler quand même.
Le voyage, c'est on va dire, ils vont parcourir le chemin qu'ils ont parcouru avec sa mère dans leur jeunesse.
Voilà. C'est.
Ils vont aller au même endroit, ils vont essayer de faire les mêmes choses. Lui, il va essayer de voir comment est-ce que ça a changé, comment ça a bougé.
Revoir des vieux amis.
Et du coup, le fils va petit à petit découvrir son père, découvrir aussi son histoire. Et voilà, petit à petit, on va dire, l'un comme l'autre vont commencer à se connaître.
Et puis faire des rencontres. Quelque chose qui est très sympa, très intéressant dans cette bande dessinée, c'est que c'est des rencontres. Chaque pays, c'est une rencontre avec de nouvelles personnes. On a d'ailleurs des pleines pages à chaque fois sur ces rencontres. À chaque fois qu'on finit un pays, on a une pleine page, quasiment. Là, t'en as une ici avec le Golden Gate.
Voilà. Il n'y a même pas de brume, c'est pas le vrai.
Ouais. Donc à chaque fois, on a ces pleines pages qui vont un peu montrer l'endroit, la rencontre, ce qu'il a vu sur chaque pays. Et des rencontres intéressantes. Alors il rencontre des moines tibétains, il rencontre un gars qui s'est installé, c'est où? C'est
en Maroc, en Tunisie.
Dans le Maghreb, qui s'est installé alors que c'est un Européen et qui vit depuis des années loin de la civilisation et qui est très heureux. Le jeune héros va croiser une jeune fille qui profite de la vie à donf et qui fait plein de tours du monde un peu à l'aventure, non-stop, alors que lui, c'est le casanier de chez Casanier. Hein. Et c'est bien. À part que c'est bien, parlons un peu du dessin. Ah.
Non.
Comment définir ce dessin?
Je dirais à la fois réaliste et en même temps très, enfin, caricatural et très irréaliste, quoi.
Ouais, il y a un côté un peu.
Parce que
les expressions parfois sont un peu.
Les expressions, voilà, des personnages sont poussés, mais en même temps, ça donne un. On pourrait dire, voilà, c'est vraiment la déformation du visage quand on est dans des émotions qui sont toujours très fortes, quoi.
Bah, la couleur aide aussi à garder ce côté réaliste avec des couleurs très sobres. C'est pas flashy, c'est sobre et élégant, il y a de beaux dégradés. C'est un côté aquarelle un petit peu, un peu plus poussé au niveau de l'empreinte de l'encre. Hein. Mm-hmm. Le dessin est sympa, le récit est très bien raconté. Et puis il y a ce voyage initiatique qui est vraiment, pour le fils, qui est superbe. Il y a aussi cette espèce de passage de relais. Une fin émouvante. Voilà.
On ne peut pas dire autre chose. Ouais.
Voilà, qui prend un peu aux tripes. C'est de la grande BD. Et c'est de la grande BD qui est dans la collection signée chez Le Lombard par des auteurs jeunes. Et je tiens à noter que c'est important, car les auteurs jeunes dans la collection signée, c'est rare. Parce qu'en général, c'est une collection où ils vont privilégier les signatures d'auteurs qui vont mettre des choses auxquelles ils tiennent, qui vont aller dans une optique qui les intéresse, alors qu'on a du Van Am, du Herman, je ne sais plus qui y a d'autres, il y a Cosé, c'est que des grands auteurs de BD à la base. Tu as un peu la liste des différentes personnes qui ont participé à la collection au début.
C'est la page que je cherche.
Voilà.
Cosé, Herman, Danny Van Am, Rosensky.
Danny, et Danny qui ne fait pas du dessin de fille à moitié à poil, attention, Danny, quoi, le grand Danny.
Après, t'en as super connu, Salcedo, Jouvray, Salcedo.
Ah ouais, qui ont sorti le superbe Nous ne serons jamais les héros, que nous vous recommandons. C'est une superbe BD. C'est donc de la collection signée chez Le Lombard et ça coûte 15,50€. Et 15,50€, bien dépensé.
Bien dépensé.
Je te le volerais bien, Théo.
Avec, voilà. Je dirais que la première et la dernière page moi, m'ont marqué, parce que du coup, quand je suis arrivé à la dernière page, ben, je suis arrivé là et j'ai fait, il faut que je re-regarde la première page.
Il y a une réponse entre les deux pages.
Les deux pages font écho l'une à l'autre, et je dirais que tout ce qui se passe entre ces 83 pages, ben, il y a des choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Très, 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 très intéressant.
Voilà. Bon, bah, on le recommande encore. Hein. C'est du très, très, très beau boulot.
Il y a un semblant de carnet de photos à la fin.
Ouais.
Il fait comme si le fils était en train de faire
carnet de voyage.
Le carnet de voyage avec toutes les photos qu'il a fait de son voyage, des rencontres, des gens qu'il a pu voir.
C'est deux pages qui font le résumé de l'album, en fait.
Mm.
Ça ferait un superbe poster pour quelqu'un qui a bien aimé la BD.
C'est clair. S'ils ont une idée, un jour, à faire en ex-libris ou un petit truc à...
Pas en ex-libris, en poster, je veux dire. Je verrais bien ça encadré, beau, tu vois. Ça ferait un beau cadre, quoi. Un format... Voilà, le format du double de l'album, là. Enfin, la double page, ça ferait un beau cadre. Hein.
Ouais. Peut-être qu'il faudrait qu'ils nous mettent plus d'images. Faudrait qu'ils s'y mettent.
Bon. Vivement les autres ouvrages de cette équipe, j'ai trouvé ça superbe.
Autre ouvrage, même cette équipe, il y a quand même Ratafia.
Dans un autre ton.
C'est pas exactement la même équipe.
C'est les frères Salcedo au dessin et au scénario. Là. Non. C'est qui au dessin? C'est qui?
Salcedo.
Ouais, bah, c'est lui au scénario aussi?
Je sais pas. Là, j'ai un trou.
Attention! Time Warp! Et donc,
les frères Salcedo,
au dessin
et à la couleur, et Potier, au scénario,
forcément.
Forcément, il ne restait plus qu'un boulot. Voilà, qui est donc une excellente série, et qui s'est terminée, je crois, l'an dernier avec le tome 5.
On en reparlera un de ces quatre, parce qu'il faut que je me les redise tous et qu'on fasse un truc dessus. Nous passons à mon premier album de chez Ankama. Un éditeur que je surveille, que j'ai bien envie d'acheter plein de BD2. Et puis j'ai craqué pour une. Ça s'appelle Silence. Alors oui, j'ai fait un petit silence exprès, genre je vous lis vraiment le titre, car le vrai titre, en fait, c'est... il écrit trois petits points entre crochets. Et puis il a dit qu'il allait l'appeler Silence, parce que pour faire des recherches sur Internet pour le trouver, c'est vachement plus facile. Et donc c'est de Anthony Combrexel et... Mathias Haddad, Anthony Combrexel au scénario, Mathias Haddad au dessin. Ces deux auteurs sont assez peu connus du monde de la bande dessinée, car c'est leur premier ouvrage. Mais ils sont connus dans un autre monde, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis laissé tenter, parce que je les connaissais pour d'autres travaux. Anthony Combrexel travaille sous le pseudonyme de Ino dans le monde du jeu de rôle, et il a écrit des jeux de rôle, disons, très scénaristiques et très ambiance. Très axé vraiment autour de l'histoire avec une ambiance noire que moi j'avais beaucoup aimé. Et Mathias Haddad, lui, a aussi dessiné dans du jeu de rôle, dans du Néphilim, du Agon, enfin, un paquet de jeux de rôle, quoi. J'aimais bien aussi ce qu'il faisait. Et là, ils nous sortent un album chez Ankama qui raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Norman Voltaire et qui est muet depuis la disparition de sa fille. Sauf qu'un jour, il reçoit une peluche de lapin blanc qui lui parle. Bon, en fait, il y a un magnéto dedans, hein, mais la peluche lui parle. Et lui dit, je sais comment tu peux retrouver ce que tu as toujours perdu, ta voix, donc ta fille. Apparemment, on lui a enlevé sa voix en même temps que sa fille.
Mmh.
Et donc, il commence à partir dans une enquête pour essayer de suivre les pistes de ce lapin qui lui laisse des indices.
Les pistes d'un livre.
Voilà.
Qui est
J'ai oublié le nom du livre.
Re-Time Warp.
Time Warp. Ça, c'était le bruit du retour de Time Warp. T'as vu, il était classe.
Pas mal.
Faudra que je trouverai des bruitages. Autant vous aurez entendu un bruitage juste avant. Et donc, c'est l'attrape-cœur de J.D. Salinger, bien sûr.
Dans une édition un peu particulière qui comporte des pages en plus.
Voilà. Alors, c'est écrit comme du comics. Trois épisodes de 22 numéros, avec la couverture en couleur en intercalaire à chaque fois.
Mmh.
Donc ça a un rythme assez intéressant et assez rapide. C'est dessiné de façon très réaliste. Le dessinateur se base sur des photos qu'il retravaille dans un trait très sombre en noir et blanc, 100 niveaux de gris, qui fait un peu penser au boulot d'un Frank Miller en moins. D'un Frank Miller ou d'un Mignola, mais en moins schématique. On reconnaît bien les traits des personnages, c'est plus précis.
Disons que moi, j'aurais trouvé, enfin, moi, j'aurais pensé au travail qu'on avait fait sur, qu'on avait vu sur M le Maudit. Où là, tu travailles beaucoup plus sur la photo, mais en flou, mais là, c'est. Il a.
Oui, c'est un travail un peu inverse. C'est plutôt que de récupérer l'ambiance de la photo, il a récupéré l'essence de la photo, les traits principaux. L'histoire est très prenante. Alors, ça sera en deux tomes. J'attends le tome 2 avec une impatience non dissimulée. Oh oui, je veux le tome 2. Parce que si on arrive à la fin, on est sur le cul. En gros, ça part. On ne sait jamais si on est dans le fantastique, dans le réaliste. Il y a des sortes de. Je veux dire, il va voir une espèce de voyante qui lui dit un truc bizarre. Et puis ça lui sert d'indice pour avancer dans son enquête. Et ça marche, mais tu te dis, mais c'est un indice, c'était du n'importe quoi cet indice, ça peut pas marcher.
C'est ça.
On est toujours entre l'imaginaire, je veux dire, le coup du lapin blanc, on pense tout de suite à Alice au Pays des Merveilles, sauf qu'en fait c'est un magnéto, donc on retombe vraiment terre à terre au niveau de l'histoire, mais on sait pas qui a mis le magnéto. Le héros se retrouve à travailler avec un flic assez rapidement.
Surtout c'est qu'en fait on s'aperçoit que le lapin apparaît à plusieurs personnes,
oui.
Donne des ordres à différentes personnes pour justement qu'elles mènent une enquête. Mais sauf que cette enquête leur permettrait à chacun de récupérer une personne qu'ils ont perdue, oui. Qui leur est chère. Et l'enquête, a priori, n'a rien à voir avec les disparitions.
Les disparitions. Alors, a priori, je pense qu'on va peut-être retomber sur nos pattes dans le deuxième volume, mais... C'est en tout cas le dessin est superbe, j'ai adoré les couvertures, toutes les planches couleurs. Donc il y en a plusieurs, il y en a trois à l'intérieur qui sont superbes.
Ouais, non, je suis pas de cet avis en fait.
Ouais, t'es pas de cet avis.
Non, c'est totalement pourri, c'est vraiment de la daube, c'est un truc infâme, il faut absolument pas lire.
Ouais, t'as décidé juste de me contredire pour me contredire.
C'est exactement ça.
Hein. Bon, alors maintenant une petite question, est-ce que t'as pas attends, moi aussi, je vais faire l'avocat du diable pour de vrai. Est-ce que t'as pas trouvé que le récit était un peu confus parfois? Qu'on savait pas trop où on allait, qu'on mélangeait peut-être pas savoir de quoi il parlait. Enfin...
Non, parce que pour moi, tu vis vraiment l'histoire par l'intermédiaire de Voltaire. Tu es vraiment à sa place, ce qui fait que tu découvres les choses en même temps que lui et que les ambiguïtés que tu as dans le scénario, que ça tient dans la compréhension, c'est ces ambiguïtés à lui. Quoi, parce qu'il y a des moments où il dit, mais. Attends, c'est pas possible, quoi. Je comprends. Enfin, même lui ne comprend pas ce qu'il fait ou ce qu'il vit. Et toi, t'es dans la même situation que lui, quoi. Tu as les mêmes images en face de toi et tu fais, mais c'est pas logique.
Alors, pour avoir un peu lu tout ce qu'il faisait sur internet sur l'auteur, pour avoir vu des interviews de lui, pour avoir un peu discuté avec lui sur Twitter,
c'est ce qu'il voulait.
Non,
il
y a un truc qu'il a dit. Est-ce que tu as compris comment il utilisait son magnétophone, le héros qui est muet? Ah, il y a un moment de...
Comment il utilise son magnétophone?
Oui.
Il appuie sur le bouton et ça fait une voix.
Alors, il faut savoir qu'à un moment, il enregistre une phrase de la stripteaseuse et qu'à un autre moment de l'histoire, il utilise cette phrase-là pour parler. Alors voilà, moi ça m'a pas semblé clair. C'est peut-être une faiblesse parce que je trouve l'idée géniale. Je trouve que vraiment c'est une super idée que le gars enregistre des bouts de phrases de gens qu'il va ensuite réutiliser pour communiquer. Alors bon, il fait aussi apparemment, il enregistre des trucs tout fait avec son ordinateur pour mettre dessus. Mais bon, qui est ce côté j'enregistre des bouts de phrases de gens que je vais réutiliser derrière. Et j'ai trouvé que c'était pas clair, tu vois.
Tu vois, ça m'a pas sauté aux yeux.
Voilà, pareil. Apparemment, on n'est pas les seuls. Et c'est juste dommage. Alors, je sais pas s'il a fait des tests, s'il a essayé, etc. Mais là, pour le coup, peut-être que d'avoir un lettrage différent. Pour faire les voix des personnages, aurait pu permettre de mettre ce genre de choses-là en valeur. Un peu comme on a dans Sandman, où tu as les éternels qui ont chacun leur police de caractère.
Ouais, mais ça aurait été complexe, parce que du coup, tu aurais eu la phrase qui serait revenue sur une autre police 20 pages après, quoi.
Ouais, ou bien prendre des polices très proches, avec de légères différences. Enfin, je sais pas, c'est...
Ouais, enfin, graphiquement, ça donnait quand même beaucoup de mal, peut-être pas un gros effet, quoi.
Enfin, moi, je trouve que l'idée de cette utilisation du magnétophone est super... Mais que là, pour le coup, c'est peut-être plus cinématographique que.
Ah, mais de toute façon, il y a beaucoup. Y a beaucoup de plans. Enfin, tu vois, comme tu dis, qui passent par la photo, parce que tu as différents plans, ou justement, carrément dans des plans de caméra, quoi. Hein, tu as l'impression d'être d'être avec quelque chose, une scène qui est carrément filmée avec plusieurs caméras, plusieurs angles. C'était le chien.
C'est toujours le chien.
C'est toujours le chien.
Ouf. Et donc, oui, plusieurs caméras. Mais par contre, ouais, tu parles de caméras. Par contre, je trouve que justement, alors qu'il travaille sur la photo, il ne tombe pas dans cette facilité d'un certain statisme. La narration est très fluide. La mise en page est très travaillée. Et je me suis douté au feuilletant que c'était basé sur des photos. Mais à la lecture, je l'ai complètement zappé. Je l'ai complètement oublié que... Enfin, j'ai oublié l'aspect technique, en fait. Tellement j'ai été pris dans l'histoire.
J'ai été pris dans l'histoire, mais je pense aussi que justement, c'est ce qui fait que vraiment la narration est très très dynamique, quoi. Toutes les scènes où tu as justement de l'action, où il est en train de discuter donc avec Stripteaseuse, quand il rencontre le policier, sont des scènes vraiment d'action et les changements de plan, d'inclinaison, ouais. Ça te donne, moi je trouve, une dynamique dans la. Dans la narration.
Ouais, mais ça va aussi avec la façon dont elles sont posées les unes à côté des autres. Tu vois, c'est pas que du langage cinématographique, c'est aussi du langage de BD, parce que t'as la juxtaposition des cases qui va créer cette dynamique et ce rythme.
Bon, en fait, là, on est tous les deux en train de dire qu'en fait, ils ont du talent, quoi.
Voilà, et que vous avez intérêt à nous sortir le numéro 2 rapidement. Il était en attente de signature, dernière nouvelle. J'espère que ça va se faire, que ça va être un succès, parce que, en tout cas, ça me conforte dans le travail des éditions Kama, qui sortent mais un nombre de BD phénoménales qui ont l'air géniales, que j'achète pas par une suspicion mal placée, peut-être, je sais pas, parce que c'est inconnu, mais il va falloir que j'en achète un peu plus, parce que c'est trop bien.
Et donc nous continuons avec Daredevil Noir, qui s'intitule donc Poker Menteur, qui est donc au prix de 10 euros.
On a noté sur les fiches là aujourd'hui, donc normalement on devrait pouvoir s'en sortir.
C'est ça, mais en fait sauf que là j'étais dans le rond. Donc au prix de 10 euros.
Chez Panini Comics.
Alors, l'histoire ici donc... on va prendre. Moi, j'ai juste oublié la trompe de.
Déjà, c'est une thématique générale chez Marvel Noir. Je te fais juste vite fait. Il y a eu plein de séries noires. Il y a eu X-Men Noir, il y a eu Spider-Man Noir. Voilà. Et là, c'est Daredevil Noir. Voilà. C'est juste pour remettre dans le contexte. En gros, c'est réécrire des personnages de super-héros connus, mais dans une ambiance noire. Film noir, polar, etc. Donc, vas-y, tu peux reprendre l'histoire.
Donc une aventure donc d'Alexander Irvin qui a été donc dessiné par Tom Cocker. Donc le Daredevil ici donc c'est le jeune Matt Murdock qui est donc qui n'est pas encore avocat dans l'histoire.
Qui le sera peut-être pas.
Qui le sera peut-être.
Moi je dirais probablement pas. J'ai l'impression que c'est vraiment le parti pris que c'est quoi, c'est dans les années 20, un truc comme ça.
Années 20, années 30, ouais.
Ouais. Ouais. Années 30, franchement, un fils de boxeur ne devient pas avocat.
Vu qui c'est qui propose, moi je dis que ça pourrait rentrer dans une...
Il n'a pas fait d'études là-dedans. Hein.
Pas encore.
Ouais, enfin bon, il est jeune, il a déjà la vingtaine, quoi.
Ouais, mais justement, il va... Enfin bon, allez, ouais. On continue dans l'histoire. Donc le jeune Matt Murdock travaille déjà avec son fidèle Foggy.
Qui lui est avocat.
Et donc, bon, bah, il est toujours le justicier de Hell's Kitchen, qui est dirigé donc du côté de la mafia par le Caïd.
Et un autre, parce qu'il
se tape sur main. Et un autre qui est en train de monter, qui s'appelle Orville. Donc, ce Orville est un ancien détenu de Sing Sing qui est en train d'essayer de faire main basse sur le business du Caïd. Et une femme fatale donc qui répond au doux nom d'Elisa, qui va venir justement pour demander à Foggy et donc à Matt Murdock d'enquêter sur Orville pour qu'elle puisse demander le divorce ou se séparer de lui ou qu'il la protège.
Voilà, et forcément le beau héros va tomber sous le charme de la femme fatale et
qui sent bon, qui n'a pas d'odeur, qui est mystérieuse, charmante. Et là, bizarrement, un Spider-Man aurait eu, tu vois, le sens d'araignée, tu vois, qui lui a dit
ça craint.
Et il a rien. Là, Daredevil.
Que dalle. Mais ça fait partie aussi de la thématique du roman noir, hein, la femme fatale.
C'est ça.
Le détective, même désabusé, tombe toujours dans le piège.
Il y croit. Il croit toujours que le bonheur peut lui sourire. Et donc, le Daredevil tombe sous son charme et l'histoire va commencer, on va dire, à monter en puissance entre une lutte entre Orville et le Caïd pour le business dans Hell's Kitchen et Matt Murdock qui lui va commencer à enquêter petit à petit sur le fameux Orville et découvrir que celui-ci a un secret qui est quand même assez important dans la vie de Matt Murdock puisqu'il est
l'assassin de son père.
Et oui, c'est lui qui était donc le commis aux basses œuvres ce soir de... Soir de boxe.
Et bizarrement, c'est le Caïd qui l'annonce à Daredevil. Mais pourquoi ?
Je ne sais pas.
Et voilà. C'est beaucoup de manipulation. On est vraiment dans le ton du roman noir. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de clichés, mais qui sont bien réutilisés, qui sont bien adaptés au personnage, à la, on va dire, à la mythologie de Daredevil, hein, qui est un peu, qui est réécrite pour l'occasion. Moi, je trouvais que le scénario était un très bel hommage au film noir et une très belle adaptation de Daredevil dans ce genre-là.
Ouais, mais en même temps, moi, je trouve que ça faisait une bonne référence à, enfin, au Daredevil que j'aime, qui est celui de...
Frank Miller ?
Ouais.
Tu les as lus, ceux de Frank Miller ?
Oui, tu me les as passés.
Ah oui.
J'ai mis un peu de temps, mais j'ai bien aimé.
Est-ce que le dessin, au début, c'est un peu dur, hein ?
Voilà, et ensuite, le deuxième...
Brian Michael Bendis.
Yes. Et là, tu vois, du coup, j'ai retrouvé, moi, je trouve un petit peu cette ambiance-là que j'ai pas retrouvé sur les derniers Daredevil, mais bon, ça c'est autre chose.
Ouais.
Mais Daredevil. Par... Non, là, je l'ai pas parce que je l'ai pas aimé.
Ed Brubaker.
Et je l'ai pas aimé.
Ah là là.
Et donc, voilà, Daredevil Noir, vraiment toute une ambiance qui se crée autour avec un vrai mystère, un bon polar, quoi. Mmh. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression de lire un bon polar, une bonne enquête où on découvre petit à petit avec une toute une ambiance qui se fait dans la ville où le graphisme vient vraiment appuyer cette espèce de lenteur qu'on avait un petit peu des fois dans les vieux films.
Mmh.
Ce côté, voilà, comme tu disais, vieux détective. Quoi,
Parle-nous-en de ce graphisme de Tom Cocker que j'ai trouvé superbe. Je trouve que ce monsieur Tom Cocker devrait dessiner la série régulière d'Ardeville tellement qu'il est trop fort. J'aime beaucoup le dessinateur actuel, mais là, il en jette. On reconnaît un petit côté à la Alex Malev que j'avais adoré auparavant, mais avec une patte encore plus sombre, je trouve. Enfin, un usage du noir et blanc. Je me demande ce que ces dessins doivent donner en noir et blanc sans la couleur. La couleur relève pas mal, hein, mais le noir et blanc doit être assez impressionnant à voir comme ça, quoi.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé. Tu me disais par contre, pour revenir sur le scénario, tout à l'heure que, je sais pas, t'avais pas été totalement convaincu, t'avais...
Alors, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu, c'est un bon polar. Maintenant, voilà, ça me laissera pas un souvenir énorme tout au long de ma vie.
Mais est-ce que c'est pas parce que c'est un peu un one-shot de Daredevil, que c'est pas dans la continuité, que ça va rien faire avancer sur le personnage, que ça te...
Peut-être, mais en même temps, je dirais là... Là, par contre, il pourrait en faire une suite.
Ouais, mais pour revenir moi sur le scénar, ce que je trouvais pourtant, malgré, ouais, peut-être que c'est pas, je sais pas, il n'y a pas ce côté énorme, parce qu'effectivement, on n'est pas dans la continuité. Ce qui touche le personnage, enfin, il pourrait crever, que ce serait pareil, vu que de toute façon, on n'est pas dans la continuité.
Ouais.
Il pourrait se permettre de le tuer. Hein. Je trouve quand même qu'il y a une manipulation, une intrigue assez complexe. Le Caïd fait une manipulation assez recherchée.
Assez fine, je suis d'accord.
Assez fine, qui laisse un petit peu... on s'attend à ce qu'il y ait une manipulation, mais ça laisse un petit peu sur la confrontation finale entre le Caïd et Daredevil. Il y a une tension que j'ai trouvée vraiment palpable, où on ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux, on ne sait plus trop si c'est vraiment Orville qui a tué ou pas, ou si le Caïd a dit ça pour arranger.
Moi, je l'ai vu plutôt dans le sens où c'est vraiment le... Enfin, qu'est-ce qui m'a plu ? Le scénario, d'un côté, oui, c'est un bon polar.
Mmh.
Maintenant, voilà, pour moi, ça ne laisse pas un souvenir énorme. Par contre, comme je disais, le truc que, bon, sans révéler, à la fin, le Caïd quand même propose une aide à Matt Murdock pour justement lui payer certaines études.
Oui.
Bah, pour moi, justement, ça, pour moi, c'est le seul truc intéressant. Ça pourrait vouloir dire que, voilà, peut-être que Matt Murdock, un jour, l'a accepté.
Ah, dans cet univers-là, ce serait la classe.
Il a accepté l'argent du Caïd pour aller faire ses études d'avocat pour changer Hell's Kitchen. Mmh. Voilà, c'est le seul truc, moi, qui... Mais après, sinon, l'histoire en elle-même, ça m'a pas... Bon, moi, c'est un bon polar, mais bon, sans plus.
Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai lu aucun autre des Marvel Noirs, mais ce serait un des meilleurs. Les autres sont, paraît-il, plutôt moyens.
Et de toute façon, impossible à trouver.
Ouais, à ce point-là? Tu
ah
les avais cherchés?
Quand j'étais monté à Paris, Spider-Man Noir...
Introuvable.
Introuvable.
Parce que c'est un petit français qui l'a écrit.
C'est peut-être pour ça.
Eh bien, nous allons nous arrêter là sur Daredevil Noir, qui reste un bon ouvrage si vous voulez lire un bon one-shot polar noir avec des dessins sublimes.
Ça, les dessins sont sublimes. Ça,
et
je
nous
corrobore.
Passons à Batman
Universe.
Universe number one.
Excuse-moi. Universe.
Universe. Numéro 1. Chez Panini Comics, toujours, pour 4,60€. Alors, en gros, c'est Batman a une vie en France un peu complexe. D'ailleurs, toutes les séries de chez DC Comics ont une vie en France un peu complexe parce que bah, ça marche pas. Jusqu'ici, alors Batman avait eu son magazine à lui, chez Semic. Puis quand c'est Panini qui a repris la licence, il a eu son magazine, mais qui a arrêté. Pour ensuite avoir le magazine Batman et Superman, où il y avait les deux personnages dedans. Et maintenant, il relance le personnage de Batman tout seul. Et ils reprennent pour commencer les choses avec des auteurs sympathiques.
Pas trop connus, assez underground quand même.
Ouais, bah, Neil Gaiman donc, au scénario et Andy Kubert au dessin.
C'est qui?
C'est le fils de Joe. Et le frère d'Adam. Voilà, bon, enfin, les Kubert sont une grande famille de dessinateurs. Assez réputé aux États-Unis. Neil Gaiman, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fantastique Neil Gaiman, c'est le scénariste de la bande dessinée Sandman, qui est mythique. Un jour, on fera un intégral dessus, mais alors il y en a 10 tomes à se relire avant, et donc c'est pas pour de suite.
Surtout, ça, le problème, c'est quand on va devoir citer juste tous les dessinateurs.
Oui, alors il y en a des milliers.
Là, du coup, on se tire sur une balle.
Rapidement, Sandman, au début, les dessins, ils peuvent un petit peu faire mal aux yeux, un peu piquer sur tous les couleurs, mais l'histoire est tellement bien que ça vaut le coup. Neil Gaiman est aussi un auteur de romans très réputé. Maintenant, il fait quasiment plus que du roman, il fait plus beaucoup de bandes dessinées. Occasionnellement, quand les sujets l'intéressent. Donc, il avait écrit le roman Neverwhere, il a écrit le roman Stardust, qui a été adapté en film il y a quelque temps, qui était très très sympathique comme film, même si le roman est beaucoup mieux. Il a fait un bouquin qui s'appelle
Neverwhere.
Je te parlais de Stardust.
Non, mais je te parle de Neil Gaiman.
Oui.
Neverwhere.
Oui, je l'ai cité déjà.
Ok.
Ouais, tu m'écoutes, ça va, hein? Ça a quelque chose. Ah, bravo. Hein, on va arrêter de faire les podcasts le soir. Hein.
C'est le citron.
Ouais, ça tue. Hein. Et il a fait plus récemment L'étrange histoire de Nobody Owens, qui est un très très grand succès que je n'ai pas lu. Il avait fait aussi American Gods, que j'ai lu celui-là, et qui était très très sympa aussi. Bref, Neil Gaiman, un très très grand auteur anglais de romans et aussi de bandes dessinées. Que raconte ce Batman Universe? Donc en gros, on a clairement la première histoire, donc... par Neil Gaiman et Andy Kubert, qui remet un peu les choses à plat, qui sert vraiment, je trouve, de pont avec la suite. On est entre deux choses. Alors apparemment, le scénariste précédent, c'était, excusez du peu, Monsieur Grant Morrison. Ou je sais plus s'il passe après. Enfin bon, bref, Batman est censé être mort, mais en fait, il a été envoyé à l'âge préhistorique. Et on a là toute une histoire qui revient sur ce qu'auraient pu être les différentes vies de Batman, en gros.
Non, les funérailles.
Les funérailles, oui.
C'est les funérailles, et chacun va raconter une mort différente de Batman.
Une mort différente, oui. Enfin, oui, des différentes morts, pardon. Oui, c'est sympa, les différentes vies. Chaque personnage va raconter une mort différente, dans des tons différents.
Et à chaque fois, en fait, ça va être soit des ennemis, soit des amis de Batman qui vont raconter sa disparition.
Voilà. Et ça part un peu bah, dans l'onirisme, dans le truc bizarre. Et une vraie introspection sur ce qu'est le personnage de Batman et ce qu'il est. Sur qu'est-ce qui définit Batman en tant que super-héros et puis en tant qu'homme en fin de compte, parce que n'oublions pas qu'il n'a pas de pouvoir.
Il n'est qu'un homme.
Il n'est qu'un homme. Donc qu'est-ce qui le définit en tant qu'homme et qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, il ne peut jamais vraiment mourir en fin de compte. Alors, on est un peu là-dedans. Hein.
C'est vrai.
Ça finit par une renaissance, entre guillemets, très onirique, hein, toujours.
Il faudrait pouvoir, enfin, je dirais, faudra voir la suite en fait.
Bon, il y a clairement une double lecture. C'est fini. Il n'y aura pas de suite par Neil Gaiman et Kubert.
Non, pas par Neil Gaiman, mais la suite dans cet univers-là en fait.
Il y a vraiment une double lecture pour moi dans cette histoire-là. Il y a les différentes morts de Batman hypothétiques et ensuite il y a un peu un sens de lecture sur l'essence du personnage qui revient sur ce qu'est Batman, quelque chose de plus complexe, qui demande peut-être un peu de connaître le personnage avant.
Ouais. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que la deuxième partie commence déjà dans la première. Parce que la personne, enfin, Batman parle avec quelqu'un d'autre.
Oui.
Et l'explication, on l'a dans la deuxième histoire.
La deuxième histoire, qui est donc le début du crossover méga géant Batman du moment, qui s'appelle Battle for the Coal en anglais, qu'on pourrait traduire par Bataille pour la cagoule, mais qu'ils ont préféré traduire par Bataille pour la cape parce que ça fait plus classe. Oui, quand même.
Oui.
En français, la bataille pour la cagoule. Voilà. Ils auraient fait se passer l'histoire encore, c'est terrible. Voilà, avec une bande originale de Fatal Bazooka. Et oui. Ouais, c'est bon, j'arrête mes conneries.
C'est vrai, ouais, non, stop.
Stop. Un peu de sérieux tout de même, on parle de Batman, quoi, c'est pas n'importe quoi.
Mais enfin, la bataille pour la cagoule qui est intéressante, parce qu'on se retrouve avec quand même.
Oui, non, vas-y, continue.
La dernière fois que tu as regardé l'enregistreur comme ça, c'est que tu m'as dit au bout d'une heure d'enregistrement, tu m'as dit en fait, j'ai pas appuyé deux fois sur le bouton, donc il faut tout recommencer.
Non, c'est bon, j'ai appuyé deux fois sur le bouton, j'ai eu un doute, je sais pas pourquoi, un moment de doute. Bon.
Non, ce qui est intéressant justement pour la bataille sur la cagouille, c'est. Cagouille.
La cagouille, ouh, joli.
La cagouille.
La cape.
La cape.
je comprends. Oui.
C'est que justement, on va se retrouver avec tous les personnages qui ont un jour endossé le costume de Batman. Ou qui ont eu un rapport avec lui, qui vont justement, qui va reprendre le taf maintenant qu'il est mort.
Voilà. Alors, et c'est ça, scénarisé et dessiné par Tony Daniel, on va vite faire en parler.
Vas-y.
Tony Daniel, qui est connu surtout à l'époque Image, il avait dessiné The Tense, je ne sais pas si tu avais lu ça à l'époque. The Tense, c'était sa petite série horrifique avec des pin-ups à moitié à poil tout le temps, parce que quand elle se battait, les vêtements se déchiraient. C'était classe, bien dessiné, des couleurs superbes.
Et pourquoi tu me l'as jamais passé, ça ?
Eh ben, on ira faire un tour dans ma Batcave et on en sortira les The Tense.
Ouais, non, peut-être pas tout de suite.
Voilà. Donc, très sympathique, The Tense. J'ai trouvé un peu faible le niveau dessin comparé à ce que j'avais pu voir sur The Tense. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a... Pourtant, je sais pas, il a mûri. Je trouve ça moins stylisé que ce qu'il faisait avant. Et là, bah, il raconte alors qui sont les candidats pour la cagoule.
Il y en a trop.
Il y a les différents
Robins.
Alors, sachant qu'il a une robinette. Hein. Voilà, encore. Oui, je savais que ça te ferait rire, la robinette. Donc, c'est sa deuxième. Hein. La première était décédée. On avait lu l'histoire, il était décédé. Bon. Il y a les trois Robins, parce que celui qui était mort est revenu parce qu'il n'est pas mort, en fait.
Parce qu'il n'est pas mort.
Il y a son fils.
Yep.
Parce qu'en fait, il a un fils. Parce que voilà, enfin, c'est Grant Morrison qui l'a sorti du néant, apparemment. Son fils, ou je sais plus, un scénariste avant. Enfin bon, voilà.
Il y a Alfred.
Il y a Alfred, oui, dans la foulée.
Ouais, qui pourrait très bien reprendre la cape.
Ouais, enfin, il se fait un peu vieux, peut-être.
Pour un Batman.
Ouais. Enfin bon, en gros, tout le monde va se battre sur la gueule pour savoir qui va être le Batman et quelles vont être les nouvelles méthodes du Batman. S'il va être une grosse brutasse, s'il va être identique à l'ancienne, car apparemment, il faut qu'il y ait un Batman dans Gotham City, c'est important. C'est un premier épisode vachement sympa si vous voulez reprendre un peu Batman si vous avez laissé tomber. Moi, c'était mon cas. Quand c'était devenu Batman Superman, j'avais un peu mis ça de côté parce que Superman m'a jamais super branché à part dans des Elseworlds ou des histoires un peu particulières. C'est du bon Batman si vous voulez démarrer la série. C'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est du bimestriel, il me semble. Oui, c'est ça, c'est du bimestriel. Et donc, vous devriez pouvoir encore le trouver. 4,60€ chez Panini Comics. Et c'est bien. Quelque chose à rajouter ?
Non, ça me navre, parce qu'on est à peu près d'accord sur tous les bouquins depuis le début.
Eh bien, nous allons peut-être changer d'avis sur le... Non, on va même pas changer d'avis sur le prochain.
Si, on aura un avis différent sur le tome 4.
Sur le tome 4. Donc, nous partons sur notre intégrale. Et il s'agit donc de Sloka.
Notre intégrale du jour.
Donc, Sloka est une série en 4 tomes sortie chez Soleil.
Pour le premier cycle.
Pour le premier cycle, qui vient de s'achever après une longue aventure. Les tomes sont environ 13,40€, ce qui nous fait un premier cycle à 53,60€. Mais on peut faire quelques économies en achetant les 3 premiers tomes qui sont sortis dans un intégral. Voilà. Eh bien, je te laisse faire le pitch.
Alors, le pitch, nous sommes donc sur la planète Link Arcroïde.
Ouais, c'est ça.
Arcoïde.
C'est un mélange entre Zelda et Arcanoïde.
Oui, mais ça m'a fait penser à Dune, tu vois.
Ouais, oui, c'est vrai, il y a un peu de ça aussi.
Donc, Link Arcoïde et Locrane, une des deux grandes puissances de cette planète, affronte la Zéide. Et donc, une guerre fratricide entre deux peuples. Et l'avenir va se jouer par rapport à un pilote de guerre qui s'appelle Sloka. Sloka va être donc. Son avion va être abattu, il va tomber sur une île. Et sur cette île, il va faire connaissance donc, d'un peuple indigène.
Les Dorés.
Il va rencontrer Legil, qui est une magnifique blonde.
Une jeune dorée.
Une jeune blonde dorée.
Voilà. Puis d'autres gens aussi, hein, mais bon, c'est surtout Legil qui est
importante. Et sur cette île, il va donc acquérir des pouvoirs suite à l'explosion d'un cristal.
Mais déjà, avant ça, il va vivre en paix, peace and love, pour voir qu'en fait, le monde sans la guerre, c'est trop beau, c'est trop bien.
C'est ça, quand on vit en harmonie avec la nature, on est trop bien.
Voilà, avec l'arbre vie du... Non, ça c'est autre chose.
Non, pourquoi tu parles d'Avatar d'un coup?
Rien, c'est... Voilà, c'est la planète d'eau. Ah non, là je pense pas encore sur autre chose. Enfin bon, on est dans une thématique classique en fait. Hein.
C'est ça.
Voilà, le gars qui découvre que le monde qui n'est pas dans la guerre, c'est bien.
Donc, lui se retrouve finalement à acquérir des pouvoirs grâce à un cristal. Il découvre aussi qu'il est l'élu des dieux.
Des dieux de cette peuplade.
De cette peuplade, qui sont en fait les dieux qui régissent aussi toute la planète quand même.
Oui, mais apparemment, il n'y a que cette peuplade qui s'en souvient.
C'est ça. Et donc, ils vont participer, on va dire, à la guerre entre la Zéide et l'Ocrane. Avec différents rebondissements, ils vont passer un peu d'un côté, un peu de l'autre.
Parce que tout le monde veut récupérer le Sloka qui a des pouvoirs.
Surtout que l'Ocrane a développé une nouvelle arme, on va dire une arme de destruction massive.
Oui.
Qui est une sorte de gros...
Ouais, c'est une sorte de bombe atomique en gros.
Voilà.
On ne sait pas trop ce que ça fait, mais c'est, en gros c'est ça. Ça détruit tout quoi.
Ça détruit tout sur un gros rayon, donc voilà. Et donc, eh bien justement, donc l'Azéide essaie de récupérer Sloka parce que ça peut peut-être leur permettre de retourner la guerre dans leur sens, étant donné que là, ils sont sur le point de perdre. Et l'Ocrane voudrait récupérer justement pour pouvoir terminer la guerre.
Voilà. Alors, dans le premier tome, donc, Sloka est poursuivi. Dans le deuxième tome, Sloka est poursuivi. Dans le troisième tome, je crois qu'il y a des gens qui le poursuivent. Et dans le quatrième tome...
C'est lui qui les poursuit.
Juste à la fin, les dernières pages, parce que sinon il est encore poursuivi.
je te sens très...
Très, oui, vas-y.
Très dur avec...
Non, alors là j'avoue que je suis un peu dur volontairement pour dire qu'on est dans du blockbuster, c'est de l'action à 100%, ça pète dans tous les sens. En gros, on peut lui faire beaucoup, pas tous, mais beaucoup des reproches qu'on fait aux productions Soleil des années 90, début 2000. Qui était très très axé primaire, action, etc. Mais derrière, il y a quand même une intrigue qui est intéressante. Certes, le coup de la peuplade qui rencontre l'autre monde, ça fait beaucoup penser à Aquablue. Non, t'as pas lu Aquablue?
Si,
mais si quand même.
Non, je faisais non, c'était oui. Un non ironique.
Ah, c'était une moue ironique.
C'était une moue ironique, mais forcément, ça rend pas.
C'est, voilà. Ah, c'est nul. Ah, il faudrait un jour. Ouais, on fera une émission filmée, mais qu'en gros plan sur toi pour voir tes grimaces.
C'est sympa, je vais adorer.
Ouais. Ah, ça sera génial. Et donc, oui, non, il y a un scénario. Alors, bien sûr, il rencontre une jeune fille mercenaire rebelle qui tombe amoureuse de lui, le héros.
Sven.
Voilà.
Qui en fait est aussi la petite amie du lieutenant de l'armée de l'Ocrane.
Voilà, enfin, petite amie, elle a fait semblant d'être avec lui, même si elle faisait semblant super bien.
Elle faisait semblant super bien, parce que lui, il y a bien cru quand même.
Ah oui, il y a cru. Dedans, hein. Voilà, on a ce méchant qui les poursuit tout du long, qui au bout d'un moment, en fait, il les aide, mais il sait pas trop pourquoi. Parce qu'ils se retrouvent dans des merdes. Enfin, il y a vraiment ce truc classique, ils se retrouvent contraints de travailler ensemble dans certaines situations. La fille que Sloka aime essaye de le tuer. Il y a des thématiques de séries d'action très classiques. Maintenant, je crois que si on veut parler de Sloka, c'est ce qui va faire la réussite ou pas. C'est est-ce que c'est réussi? Est-ce que la sauce prend? Est-ce que ça vaut le coup par rapport à n'importe quelle autre série d'action de bande dessinée?
C'est efficace. Moi, j'ai trouvé. Voilà, c'est efficace. C'est le premier tome m'avait beaucoup plu à l'époque.
Ouais.
Je dis à
Tu étais jeune.
l'époque, parce que l'air de rien, je sais pas de quand il date, mais il est plus tout jeune.
Ah non, le premier tome est plus tout jeune vu qu'il est de 2001.
9 ans déjà.
Eh oui.
Et donc le premier tome m'avait beaucoup plu à l'époque.
Le deuxième tome est de 2003, le troisième tome de 2004 et le quatrième tome vient de sortir.
2010, et oui. Ce qui fait du coup on a un petit changement aussi au niveau du dessinateur, mais ça on en parlera après. Moi je trouve l'histoire efficace. Voilà, tu passes un bon petit moment, même
Ouais.
si on va dire il n'y a pas de rebondissements qui te laisseront tomber de ta chaise quand tu es en train de le lire. Mais c'est bien. Voilà.
Ouais.
Tu passes un bon petit moment et puis c'est une intégrale pas chère.
La fin ouverte. La fin qui est ouverte vers un autre cycle. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'ils auraient dû arrêter la série parce qu'ils avaient raconté une histoire sympathique? Ou est-ce que tu crois que bah ça peut amener des choses intéressantes?
Alors, c'est. Bon, c'est un peu comme une. Moi, pour moi, c'est une. Voilà, ça ressemble un peu à Land First. Bon, Land First, t'avais pas vraiment de fin dans le premier. Enfin, t'avais
Le premier cycle, oui, t'as une fin nette
une
et
fin nette et
tranchée.
tranchée. Et eux, ils ont décidé d'en faire une suite. Là, voilà, j'irais. On a fait le premier cycle. Je pense que tu peux t'arrêter là si t'en as envie.
Oui, mais enfin bon, t'as une suite qui est annoncée, en gros.
Non, mais elle a annoncé, mais je veux dire, moi, dans, enfin, bon, désolé, mais moi, Land First des étoiles, j'ai pas accroché. Donc, je me suis arrêté à la première série.
Oui. Non, mais ce
Et
que je
du
veux dire.
coup, enfin.
Je veux dire, tu pourrais ne pas accrocher à la suite, mais ce que je veux dire, c'est que l'Enfeust de 3, quand tu arrives à la fin de l'Enfeust de 3, t'as vraiment, enfin, t'as pas de point de suspension sur
Mais.
certains points de l'intrigue. Là, il y en a quand même.
Ouais, mais ils sont pas. Moi, je sais pas trouver vraiment. Enfin, t'as une ouverture, certes, mais c'est pas non plus.
Parce que la guerre est pas vraiment finie, c'est le chaos, il y a tout à reconstruire. Enfin,
Ouais, mais
c'est.
justement, tu rentres dans le. Enfin, non, moi, je sais pas, ça m'a pas.
Bah moi, disons que, on va dire que le final m'a un peu déçu car je l'ai trouvé un peu radical et que je trouve que justement ils se sont brisés une ouverture super intéressante. Alors même si on peut pas dire que ça finit bien, je trouve que ça finit presque trop bien quand même. Ouais? Non? Hein? Ah, tu refais des moues?
La fin est quand même pas non plus. On n'est pas au royaume des bisounours,
Non, mais
quoi.
pas au royaume des bisounours, mais disons que il règle le truc du grand méchant caché, pour ne rien dire, assez radicalement et assez rapidement, je trouve un peu trop même.
C'est rapide, certes, mais la solution radicale, elle vient, ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé que elle était bien dans la continuité du personnage, quoi.
Ouais, j'aurais laissé mourant le grand méchant caché, tu vois, genre. Plutôt que de l'exterminer, qu'on est presque sûr qu'il va pas revenir.
Alors, non,
Oui,
ça
bon,
par contre.
ça on peut en douter, mais bon, ça fait un peu. Ouais, bon.
Ouais, on n'est pas tout à fait d'accord, quoi.
Voilà. Ah, il était temps!
Il était temps.
Il
Bon,
était temps!
maintenant parlons donc de ce tome 4 paru donc 6 ans après les premiers événements.
Voilà, ça fait longtemps, hein, ce qui fait que même toi, tu as relu toute la série pour le coup.
Ouais, parce que là depuis. Mais en fait, surtout, c'est quand il est sorti, d'un coup, j'ai fait mes. C'est un nouveau tome
C'est une
ou.
réédition.
C'est une réédition, je me suis dit, puis tome 15, je fais non, il me semble pas l'avoir acheté celui-là. Donc, ce nouveau tome, donc déjà, gros changement, c'est qu'on n'a plus le même dessinateur.
Oui, on n'a plus
Donc,
les mêmes coloristes.
non plus, même si la coloriste avait déjà travaillé sur le tome 3.
Ouais. Alors avant de parler des changements, si on parlait plutôt de ce qu'on avait avant que ça change. Donc déjà, le scénariste, c'est Monsieur Godridge, qui, en tant que scénariste, n'a fait que Sloka en BD. Bah, sur 10 ans, c'est peu, je sais pas, ça me semble. Alors, il doit peut-être avoir un autre métier à côté, c'est possible. Hein, je connais par exemple un superbe dessinateur scénariste qui est vétérinaire, qui ne finira jamais sa bande dessinée, qui s'appelait Le Dernier Loup d'Oz, si tu te souviens bien.
Ça me dit quelque
Ah,
chose.
c'était une bande dessinée fantastique qui n'aura jamais de fin. Mais c'était beau. Hein. Ah, c'était bien. Et donc, bon, il n'a fait que ça. Donc, c'est vrai que c'est difficile Enfin, on peut difficilement dire qu'on connaît un auteur en n'ayant lu qu'une seule de ses œuvres. Donc, voilà, c'est du blockbuster bien écrit. Hein. Le scénario est quand même beaucoup plus fin que, par exemple, un Avatar. Oui, je sais, j'aime
Bon,
bien un
mais
peu
c'est
casser
personnel, ça, dis
Avatar.
donc.
Ouais, je sais. Attends, il a réussi à me surprendre, lui, au moins un peu, des fois. Godridge. Et au dessin, nous avons donc Adrien Floch. Adrien Floch qui donc a arrêté pour je ne sais quelle raison. Alors, il s'est peut-être engueulé avec Godrich, peut-être que...
Peut-être qu'il avait simplement depuis le temps un autre projet et qu'il n'avait plus le temps de bosser dessus.
Voilà, Les Naufragés d'Ithaque, donc, qui est son autre projet sur lequel il travaille en ce moment. Naufragés d'Ithaque, c'est qui au scénario? Parce que je ne les ai pas lus, Les Naufragés d'Ithaque.
Je les ai lus, mais j'ai plus le scénariste en tête.
Je ne sais pas pourquoi, je sentirais bien Arleston, un truc comme ça.
Non.
Non, c'est pas lui.
Et là, tu vas me dire que oui. En théorie, avant, tu faisais un time warp pour ça, tu vois.
Ouais. Ah, pardon. Time warp.
À ce rire gras, je sens que je me suis lourdé.
C'est Scott Charleston au scénario.
Non, c'est son fils.
Ah, c'est Scott Junior. Scott c'est Junior. Bourbon Arleston. Bourbon Arleston, c'est ça. Donc oui, c'est Arleston. Donc peut-être qu'il a aussi voulu aller vers un scénariste plus...
prolifique.
Bah, pas prolifique, mais c'est vrai que quand tu bosses avec Arleston, tu sais qu'il y a des chances que rien que sur son nom, tu vas réussir à vendre un peu de ta série, quoi.
Oui, mais enfin, Sloka a quand même, été une bonne réussite.
Ça,
hein.
Ça, je pense que ça a bien marché, sinon ils n'auraient pas sorti le tome 4 6 ans après. Hein. Ils auraient laissé mourir la série de sa belle mort. Et donc, Adrien Floch bah, débute, hein, j'ai l'impression, dans le premier tome de Sloka. La couverture, d'ailleurs, est jolie, mais j'aime pas trop les couleurs. Là, je n'ai pas trop accroché. Pourtant, les couleurs de Lise dans le bouquin, enfin, pas trop dans le premier, mais dans ceux d'après, je trouve que les couleurs sont superbes. Il y a des superbes textures. C'est très bien rendu.
Mais d'ailleurs, tu notes que dans le premier, Lise n'est pas sur la couverture.
Oui, elle n'est pas notée sur la couverture.
C'est peut-être pour ça, en fait.
C'est peut-être aussi que, au début des années 2000, on notait pas encore le nom des coloristes sur les couves. Hein. C'est assez récent, quand même, que les coloristes soient mis en avant. Bon. Et bah tu regardes, est-ce que sur les Lanfeust, tu as le nom du coloriste?
Non.
Non, voilà. Pourtant, il fait du bon taf, hein, le coloriste de Lanfeust. Lise en a colorisé, hein, il me semble. Ouais, j'ai regardé dans mes fiches tout à l'heure. Le tome 3. Et donc, t'as vu un peu comme j'ai l'air encyclopédique, comme ça. Page, ouais.
Et on va t'appeler Maître Capello. Hein.
Ouais. Et donc, alors, il y avait une certaine maladresse dans le trait, mais de l'élégance, voilà. Moi, je trouve que c'est un trait élégant, un côté un peu caricatural, mais pas trop. Quelques trouvailles graphiques intéressantes. Quand il utilise son pouvoir, il y a une sorte de trait qui arrive sur son visage, qui montre sa colère, qui était une belle idée graphique.
C'est les cristaux, en fait, qui s'illuminent.
Oui, non, mais les traits qu'il a sur le côté sur du visage, c'est pas les cristaux qui s'illuminent. Il a comme des rayures qui apparaissent sur le côté du visage. Enfin, il y avait des beaux dessins, une mise en page intéressante, même si parfois un peu chargée. Hein. Il peut y arriver qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases par page. Mais sur les trois premiers tomes, il y a vraiment une évolution. L'anatomie... devient moins approximative. Alors, si vous tombez sur les premiers tomes, je ne sais pas si le dos de couve sera le même, mais le dos de couve du premier tome, autant vous dire que l'anatomie a fait
les
un peu...
Les trois premiers tomes.
Ouais, les trois premiers tomes. Le dos de couve a fait un peu peur. Hein. Il a un bras, on ne sait pas de comment il lui sort. Ça fait bizarre. Hein. Je veux dire, si tu lui baisses les bras, il lui tombe au milieu des genoux. Hein.
Ils sont surdimensionnés.
Ouais, c'est un peu étrange. On dirait les bras d'Angelina Jolie sur la couverture de Wanted, sur l'affiche de Wanted. Mais ça gagne vraiment en élégance avec le temps. J'ai trouvé aussi que ça valait le coup. J'ai beaucoup aimé ses dessins. Je trouvais que ça collait bien à l'ambiance.
C'était un trait qui était quand même assez fin.
Oui, oui, oui.
En comparaison de ce qu'on va découvrir sur le tome 4.
Avec Céleste, ou Celle, je ne sais pas comment on prononce. On va encore avoir un débat là-dessus.
Peut-être qu'on aura un poste de Céleste qui nous dira comment on le prononce.
Voilà. Et donc, son dessin est manga. Je crois que j'ai résumé assez facilement l'inspiration majeure, je pense, de ce dessinateur.
Je valide.
Il a un trait très manga, des grands yeux. C'est Florence Torta qui est passée à la couleur. On voit qu'elle a appliqué une colorisation aussi qui fait très manga avec des aplats plus posés, un peu moins dégradés. Les dégradés dans les décors, c'est toujours superbe, je trouve, au niveau de la couleur. Mais sur les personnages, il y a des aplats parfois un peu bruts, un peu moins fins. C'est l'impression que j'ai eue. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que ce trait-là est trop caricatural pour cette série.
Surtout ce qui est, je trouve assez, enfin, choquant. Sans l'être, ouais. Hein, on va peut-être pas non plus trop taper sur le nouveau dessinateur. C'est peut-être pas non plus.
Non, parce qu'il est pas mauvais, ça colle pas.
C'est ça. C'est qu'en fait, on avait ici, par exemple, moi, là, je suis en train de regarder, je monte le tome 3 en même temps à pied, c'est que on a un personnage qui semble avoir une bonne vingtaine d'années, quoi, 20, 25 ans. Et on arrive sur le tome 4 avec un personnage qui a les traits d'un gosse, quoi.
Ouais, tu as 17 ans.
Et là, d'un coup, on a... Enfin, ouais, quand on relit toute la série d'un coup, parce que moi, c'est ce que j'ai dû faire, parce que forcément, 10 ans après, j'avais plus trop ce qui s'était passé au début, mais c'est quelques souvenirs. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ce changement-là dans le graphisme du personnage, c'est... Ah.
Un peu perturbant. Alors... Pour pas jeter la pierre sur Céleste, je suis tombé, en essayant de me renseigner un peu sur lui, sur des planches d'une autre bande dessinée qu'il a faite, que j'ai pas lue, hein, qui s'appelle Le Totem. Et là, pour le coup, j'ai trouvé son dessin vachement plus fluide, vachement plus adapté. J'ai pas lu la série, mais il y avait un côté plus dynamique. On a l'impression qu'il a essayé de faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Mais que c'est pas son trait. Il y a un côté qui... Ça semble un peu forcé. Il a essayé d'adapter son style manga à un côté réaliste et ça choque un peu.
Est-ce que c'était une commande de la part de Soleil ? Est-ce que c'était un peu l'éditeur ? Est-ce que c'était
un peu scénariste ? Je ne saurais dire. Ouais. C'est un peu dommage. De toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que plus que les qualités du nouveau dessinateur, c'est le fait que ce ne soit pas le même qui pose problème. Hein. C'est comme à chaque fois quand on s'est attaché à des personnages, à une histoire, à une façon de raconter, quand on passe à quelque chose d'autre. Y a toujours un choc et c'est rare que je pense par exemple au changement de dessinateur sur qui m'avait choqué Froid de Val au scénario
Le Droit et Ponté,
voilà, et la BD c'est et
Les Chroniques de la Lune Noire.
Merci. Oh là là, le trou sur un classique de la mort.
Dis-moi, ça vaut mon scotch de tout à l'heure, hein.
Ouais. Donc voilà. On va conclure sur Sloka. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. À moins que tu vois un petit détail. Allez, un petit truc. J'ai trouvé que sur le scénario, les personnages étaient plus fins qu'ils n'en avaient l'air. Le personnage du crâne, qui est le bourrin un peu méchant qu'on a au début, qui a l'air d'être une vraie enflure. On se rend compte que, par exemple, il a un vrai attachement pour Sven. Et que dans tout le premier épisode, il essaye vraiment d'aller lui sauver la vie, quoi. Il agit pas parce que c'est le méchant. C'est le gars, il croit à son combat dans la guerre. Il a des techniques bourrines, mais c'est parce qu'il est comme ça. C'est un personnage que j'ai trouvé un peu plus intéressant. Fallait pas se contenter dessus d'une première lecture, quoi.
Non, mais de toute façon, tous les personnages au cours des 4 tomes ont quand même bien évolué.
Oui, ils avancent tous. Si, le seul qui avance pas vraiment, c'est Sven. Qui n'avance pas vraiment, en fin de compte.
Intérieurement, elle avance.
Ouais, peu.
Enfin, les Jill, par contre, avancent pas à moi.
disons qu'il y a un changement à la fin du premier tome et que...
Ah elle reste comme ça, ouais. Elle reste en mode automatique, quoi.
Ouais, full auto, j'attaque tout ce qui bouge.
Monomode.
Voilà, donc c'était notre intégrale, c'était Sloka. Si vous aimez les beaux blockbusters, on aurait pu le mettre en easy reading, parce que c'est le cas, c'est sympa à lire, c'est pas prétentieux, c'est sympathique, c'est agréable. Et nous allons donc pouvoir passer à notre rubrique online.
Avec les aventures de la fin du monde par...
Vincent Co. Pardon. Cet enfoiré de Vincent Co.
Un petit peu de jalousie, peut-être.
Moi, je dis que un jeune homme qui est né en 91...
Et qui n'a donc même pas connu le club Dorothée.
Ouais. Qui, d'un coup, se balance à faire des BD. Qui les fait bien. Qui a un style graphique assez minimaliste, mais très efficace. Qui a commencé à faire des blogs comme ça a marché, il chope le prix du blog découverte à Angoulême. Ce jeune homme, franchement, bravo, parce que quand j'ai lu Les Aventures de la Fin du Monde, je ne savais pas du tout qui il était, je m'y suis intéressé un peu après, C'est mon frangin qui m'a dit « Ah, il faut que tu suives absolument le blog de Vincent Coe !» Et puis j'ai découvert que c'était les mêmes. Les aventures de la fin du monde, c'est vachement mature, je trouve, comme écriture.
Au niveau de la narration, c'est clair que c'est très intéressant.
Que racontent les aventures de la fin du monde? Eh bien, la fin du monde a eu lieu.
Et il reste
un homme
et une femme. Monsieur Torpin
et madame, sa secrétaire.
Madame Billot.
Voilà.
Mademoiselle Billot,
sa secrétaire. Et apparemment, ils vont devoir refaire le monde ensemble. Sauf que Mademoiselle Billot n'est pas d'accord du tout. Et Monsieur Torpin, c'est un peu... Il est un peu, comment dire, à décaler vis-à-vis de la situation. Il n'a pas trop compris ce qui lui est arrivé. Donc ça sort de façon assez apériodique. C'est des gags en deux bandes qui racontent du style « Ah là là, c'est la fin du monde, on va pouvoir tout redécouvrir. Ah, je vais inventer la roue !» Enfin bon, comment définir cet humour? C'est un peu pince sans rire. Vas-y, aide-moi, là, je suis en train de m'enfoncer, j'ai du mal à trouver.
Non, c'est ça, c'est des petites piques entre donc Adam et Ève, parce que chacun, donc, en plus, un Adam Torpin et Ève Billot.
Oui. Quel hasard.
Donc, du coup, Adam et Ève sont obligés de vivre ensemble, sans que pour l'instant, ils n'ont pas encore de
connivence.
De connivence et d'autres liaisons que d'avoir été le patron et la secrétaire. Quoi.
Voilà. Et puis il y a Dieu aussi qui fait un passage.
Il y a Dieu qui est une pomme.
Oui, Dieu est une pomme, sans étiquette.
Sinon, c'est pas une vraie.
C'est pas une vraie pomme, il n'y a pas d'étiquette. Donc voilà, vous pouvez voir avec notre façon de raconter que c'est un humour un petit peu absurde, un petit peu débile, mais qui fait pas mal réfléchir sur beaucoup de choses, je trouve. Il y a du fond.
Moi, je trouve ça, ouais, non, je trouve ça sympa.
Voilà. On mettra l'adresse sur le blog. Allez voir ça, c'est génial. Ça, c'est assez apériodique. Allez voir le blog de Vincent Coe dans la foulée. On mettra l'adresse aussi. J'ai beaucoup apprécié les aventures de la fin du monde. Arrête de te frotter la barbe sur le micro. Je sais que tu aimes ça, mais quand même, c'est indécent. Stop. Ah ! Et c'est qu'on a fini ?
C'est qu'on a fini, c'est ça. On est arrivé à la fin.
Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, notre 11e épisode. Nos pubs habituels, donc notre blog est sur blog.jeudepied.com sur lequel vous trouverez toutes les informations sur les émissions et diverses autres choses qui n'ont rien à voir, mais parce que c'est mon blog et que c'est comme ça.
N'hésitez pas à aller sur Facebook, Twitter, iTunes, Bedovor, BDGS.
Oui, bon, je fais ma pub sur plein de forums, j'ai des commentaires. Merci à vous pour tous vos commentaires encourageants. Merci à ceux qui ont dit qu'on s'améliorait, qu'on était de meilleur en meilleur, pour faire une phrase bien française.
J'ai les oreilles qui saignent.
Ouais. Tu vas salir mon casque. Et donc, voilà, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Ciao.
Ciao, bonnes vacances pour ceux qui y sont.
Ouais.